Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, comment allez-vous ? Bien, j'espère. Aujourd'hui, nous allons reparler des changements climatiques, ou plus exactement, de ce qu'entreprennent les villes pour devenir plus résilientes face à ces menaces. En date d'aujourd'hui, plus de 400 municipalités québécoises ont signé la déclaration d'urgence climatique. Il s'agit d'un document où les élus s'engagent à reconnaître l'importance de passer à l'action pour la planète. Concrètement, ils s'engagent à réduire rapidement et concrètement les émissions à gaz à effet de serre de leur municipalité, en d'autres mots, à pousser les villes à devenir carboneutres. 3 ans plus tard, comment les villes passent-elles de la parole aux actes ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À peu près 400 municipalités québécoises s'engageaient dans la lutte au changement climatique en signant la déclaration d'urgence climatique. Nous allons explorer avec nos invités comment cela se passe sur le terrain. Nous sommes en compagnie de Joanne Boisvert, conseillère municipale de Shefford en Montérégie. Bonjour.
Bonjour.
On est en compagnie aussi de Normand Diotte, le maire de Candiac. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et d'Hélène Mandénian, qui est doctorante en études urbaines au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Elle est assistante de recherche à Labo Climat Montréal. C'est un laboratoire qui se penche sur l'adaptation au changement climatique avec les professionnels et les acteurs du territoire. C'est bien ça? Bonjour.
Oui, bonjour à tous et à tous. C'est bien ça.
Donc, les municipalités de la province commencent à ressentir les effets des changements climatiques avec, par exemple, les inondations qui sont beaucoup plus conséquentes qu'avant. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elles entreprennent différentes actions et s'adaptent au changement climatique. Pour commencer, quelles ont été les raisons qu'ils ont poussé à signer la déclaration d'urgence climatique? Peut-être, Monsieur Diotte?
Oui, certainement. Écoutez, ça vient d'une décision du conseil municipal pour la préoccupation que nous avons avec les impacts sur les changements climatiques. Alors, le conseil ainsi que l'ensemble des membres de la direction avons décidé de porter des actions concrètes dans notre plan stratégique 2018-2033. Alors, c'est en ce sens-là que nous avons postulé afin de faire partie des 25 villes qui ont été reconnues par la FCM pour le changement climatique. Alors, avec des objectifs quand même ambitieux de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, mais nous y croyons et nous allons travailler fort pour mettre un plan d'action dans ce sens-là pour y arriver.
Oui, Mme Boisvert, à Shefford, pourquoi vous avez embarqué dans ce mouvement-là?
Shefford a toujours eu une préoccupation envers, je dirais, l'environnement. Ça fait partie, c'est notre devise même, en harmonie avec la nature, est une préoccupation constante et notre leitmotiv. On s'est mis à réfléchir en se disant que si les gouvernements ont une réduction de 40% des gaz à effet de serre, la municipalité est aussi un gouvernement. Le gouvernement municipal, c'est le gouvernement de proximité, le plus près des gens. Alors, on s'est senti interpellés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour? On a déjà cette sensibilité-là, on a déjà des citoyens qui sont très préoccupés de l'environnement. C'est souvent un des choix pour lesquels ils viennent demeurer à Shefford, qui est une municipalité particulière dans le sens, c'est une municipalité rurale, qui n'a pas de centre-ville, mais qui compte quand même environ 7200 de population. Alors, c'était notre point de départ en disant comment on peut mettre la main à la roue, comment on peut créer un effet d'entraînement auprès des employés et auprès de nos citoyens, parce que notre approche vise aussi à cet effet d'entraînement-là avec nos citoyens aussi.
Oui, de montrer l'exemple finalement, c'est ça?
C'est ça.
Madame Mandénian, les villes sont les acteurs de premier plan dans la lutte au changement climatique. Qu'est-ce qui les attend?
Alors, en effet, les villes sont premier plan à la fois à subir les conséquences en fait des changements climatiques, comme vous le disiez, quand on parle par exemple d'inondations, d'îlots de chaleur, de tempêtes, etc. Mais elles sont aussi identifiées, comme Madame Boisvert le disait, comme des acteurs de proximité, des acteurs de premier plan qui peuvent répondre à ces enjeux. Donc, en fait, les municipalités vont d'abord essayer de comprendre un peu, en effet, quels sont les risques qui pèsent sur elles dans les années à venir, et pour certaines, des risques qui existent déjà. Donc, en termes d'impact, en fait, des changements climatiques sur leur territoire et leur population, ça, c'est souvent, en fait, une première étape de prise de conscience des vulnérabilités auxquelles elles sont exposées. Pour ensuite en effet réfléchir à comment mettre en place des solutions pour essayer de répondre à l'adaptation au changement climatique et baisser leurs émissions de gaz à effet de serre.
Oui, je sais que vous avez un projet à la Chine Est. Comment ça se passe là-bas, à la Chine ?
Oui, tout à fait. En fait, dans l'arrondissement de la Chine, il y a une friche industrielle qui a à peu près 64 hectares, donc c'est assez conséquent, qui donc s'appelle la friche la Chineuse, qui est en projet de redéveloppement pour en faire un nouveau quartier, un potentiel éco-quartier. Et donc, la ville, l'arrondissement, les parties prenantes, que ce soit la société civile, les promoteurs, etc., essayent de réfléchir à comment prendre en compte dès maintenant l'adaptation au changement climatique dans le développement de cet éco-quartier. Oui. Donc justement, identifier quelles sont les vulnérabilités de ce quartier, puis comment essayer d'y pallier immédiatement en fait, dans le développement, donc en réfléchissant justement à la gestion des eaux de pluie qui vont être plus conséquentes dans les années à venir, comment apporter du verdissement pour gérer justement ces eaux, comment diminuer les îlots de chaleur dans un aménagement qui est évidemment vert et accessible pour beaucoup de personnes. Donc ça fait partie des différentes questions qui sont en cours de réflexion à la Chine.
Oui, c'est peut-être plus facile quand c'est en amont. Monsieur Diot, présentez-nous un peu, Candia, quels sont les impacts des changements climatiques au sein de votre municipalité?
Bien, je peux vous dire que nous avons plusieurs actions qui ont déjà été mises en place et plusieurs à venir dans le cadre justement d'atténuation des changements climatiques. Premièrement, pour votre information, Candiac a deux projets de développement en ce moment. Un projet POD, Pedestrian Oriented Development, et un projet TOD, Transit Oriented Development. Alors, ce sont deux projets d'envergure pour lesquels nous faisons du développement durable. Un est une revitalisation, le square Candiac d'une ancienne usine, la Consumers Glass, qui était ici présente depuis des années. Donc, nous avons converti cet espace industriel en espace résidentiel et nous faisons dans le cadre de ce projet-là du développement durable. Alors, il y a eu récupération des matériaux qui ont été faits aussi jusqu'à 80% lors de la démolition de l'ancienne usine. Nous avons mis des jardins solaires aussi sur les toits des différents édifices qui s'y trouvent présentement. La récupération des eaux de pluie, aussi la biorétention, alors c'est un élément important. Nous avons planté évidemment beaucoup d'arbres, ce qu'il n'avait pas sur l'ancien site. Bref, plusieurs choses intéressantes qui ont été mises en place dans le cadre. Vous pouvez voir ça sur notre site Internet. La même chose pour le projet TOD de la gare. Donc, ce sont d'autres aussi exemples concrets que nous allons mettre en place lors de ce développement-là, dans le but évidemment de réduire l'automobile. On ne veut pas l'éliminer, mais on veut le réduire. Donc, beaucoup d'accent sur le transport actif. Donc, on sait qu'à un kilomètre d'une infrastructure de transport, on va mettre en place que ce soit l'élargissement des trottoirs. Nous déneigeons actuellement plus de 28 kilomètres de pistes cyclables sur 34 dans la municipalité pour favoriser le transport actif, même l'hiver. On voit déjà une amélioration. Et je pourrais vous citer aussi, nous avons converti 928 luminaires au DEL avec un contrôle intelligent sur différents territoires de la municipalité. Et on a aussi eu la certification communauté bleue dans le sens d'économiser d'eau. On va éliminer les bouteilles d'eau dans les bâtiments municipaux. Et même chose, nous faisons partie de la fondation David Suzuki pour la certification Ville Amie des Monarques. Bref, une série d'actions que nous faisons déjà depuis un certain temps. Nous allons continuer de le faire. Il faut aussi s'assurer de desservir les autres municipalités en eau potable, parce que Candiac dessert six autres municipalités. Avec les sécheresses abondantes, avec la diminution d'eau dans le fleuve, on voit la réduction, évidemment, de l'eau qui est potentiellement là, récupérable pour alimenter nos municipalités. Donc, on a des préoccupations dans ce sens-là. Alors, vous voyez, là, on veut vraiment faire des actions concrètes pour l'ensemble des citoyens, oui, puis être aussi un modèle pour pouvoir, après ça, transposer ça à d'autres municipalités dans le cadre du plan d'atténuation des changements climatiques.
Oui, je vois tout à fait. Madame Boisvert, de votre côté, quels sont les impacts des changements climatiques au sein de votre municipalité, peut-être les vulnérabilités de votre territoire?
Les vulnérabilités de notre territoire se situent, écoutez, on est traversé par la rivière Yamaska sur notre territoire, alors... on voit déjà des impacts. Il y a une partie du lac de Waterloo qui est aussi à Shefford. Et on est un bassin versant très important pour ce lac. On s'en rend compte aussi au niveau de tout ce qui est travaux publics. Comme on a une montagne en plein milieu de notre territoire, les eaux de ruissellement, quand il y a de fortes pluies, ce qu'on on observe de plus en plus fréquemment, ont énormément d'impacts, vont briser les rues, vont lessiver les rues. Et même en plein hiver, maintenant, il faut faire des travaux parce que les fossés, quand ils sont pleins de neige, ben écoutez, les eaux, quand il y en a des pluies fortes, là aussi, ça a d'autres impacts. On ressent vraiment des impacts à ce niveau-là. Et on a pris différentes mesures d'atténuation pour ça. On y va plus en mode préventif. Il y a des bassins de rétention des sédiments qui ont été installés. On a une législation qui protège vraiment le territoire pour la construction en forte pente. Il y a des limitations importantes. L'abattage d'arbres est très réglementé aussi.
Oui. Madame Andélian, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance de cibler peut-être les vulnérabilités dans la municipalité pour faire face au changement climatique?
Oui, bien sûr. Donc, si on veut des villes qui sont adaptées et carboneutres éventuellement, il faut aussi prendre en compte l'ensemble de la population et du territoire pour être sûr qu'on embarque tout le monde dans cette transition. Donc, c'est important quand on évalue les vulnérabilités en fait du territoire de prendre en compte toutes les populations et souvent celles qu'on entend peut-être un peu moins, qui sont peut-être les personnes qui viennent moins à des consultations publiques ou qui habitent dans des quartiers qui sont déjà peut-être moins favorisés. Prendre en compte aussi des minorités, que ce soit de genre ou de race ou des personnes handicapées, etc. Donc vraiment essayer d'être très inclusif dans cette transition. Donc quand on fait la carte des vulnérabilités de son quartier, de sa ville, c'est important de prendre toutes ces voies en considération pour essayer de répondre à tout le monde de façon la plus équitable possible, on va dire.
Oui, puis le territoire, différemment de là où on est placé, proche d'une montagne, etc., on vit avec différentes choses aussi.
Tout à fait, dépendamment où on va habiter. Si on pense à des municipalités, par exemple, plus vers le Bas-Saint-Laurent, des gens qui habitent en bordure de fleuve vont être, par exemple, plus touchés par les changements climatiques au niveau du fleuve qui font qu'on a une érosion des berges, par exemple, des inondations, etc., qui vont être différents de gens qui habitent peut-être dans des villes plus minéralisées, qui vont subir plus des effets des îlots de chaleur. Donc, quand en fait on a des vagues de chaleur l'été et qu'on habite dans un quartier qui a beaucoup de béton, qui a peu de verdure, etc., ben, on va souffrir beaucoup plus de chaleur intense, qui bien sûr a des impacts sur la santé, notamment des plus vulnérables, dont les personnes âgées. Donc vraiment, dépendamment de où on habite sur le territoire, on va être exposé à des vulnérabilités différentes et la ville doit essayer de prendre en compte ces différentes vulnérabilités pour y répondre au mieux.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Guyot, est-ce que vous avez regardé du côté de vos vulnérabilités de votre territoire?
Ben oui, tout à fait. Et je peux vous dire que on a même fait un sondage au niveau de la population tout récemment. Alors, on a eu quelques 250 répondants. Nous étions très heureux à savoir comment les citoyens percevaient les changements climatiques et pour eux, quelles étaient justement les vulnérabilités. Donc, c'est sûr que les vagues de chaleur, c'est un élément important. C'était mentionné tantôt. Évidemment, des endroits où il y a du béton ou, bref, des grands stationnements, bref, des eaux de chaleur, ça a un impact. Alors, il y en a quelques-uns à Candiac, mais quand même, il y a beaucoup d'îlots de fraîcheur. Je tiens à le mentionner, nous avons 17 000 arbres sur notre territoire public. Donc, on a vraiment une canopée fort intéressante au-dessus de notre municipalité qui crée beaucoup d'îlots de fraîcheur. Les pluies intenses, les pluies de 100 ans, je pense que maintenant, c'est plus des pluies de 100 ans, c'est des pluies de 20 ans. Mm-hmm. Alors, il faut se prémunir contre ça. Donc, la rétention des eaux pour faire percoler le plus possible dans le sol avant d'aller dans nos différentes infrastructures. Alors ça, il faut penser des villes autrement maintenant. Maintenant, quand on va construire des villes, on ne peut plus le faire de la même façon que nous construisons des villes par le passé. Alors, ça prend des infrastructures différentes qui vont être capables de pouvoir contrer ces impacts-là. Des sécheresses, j'en ai parlé tantôt aussi, donc la diminution de la hauteur, entre autres du fleuve Saint-Laurent. Nous avons connu des périodes quand même assez importantes. Notre usine de filtration s'alimente dans le fleuve Saint-Laurent, alors comme plusieurs autres municipalités. Il faut faire face et mettre les infrastructures en conséquence pour s'assurer de pouvoir toujours obtenir l'eau pour en distribuer à l'ensemble de nos clients. Et un autre élément aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la venue des espèces exotiques envahissantes. Ça aussi, je pense que c'est non négligeable et ça a un effet sur le milieu naturel d'une façon assez importante. Et on peut perdre certains milieux naturels qui sont aujourd'hui très attractifs par la venue de développement important d'espèces exotiques envahissantes. Fait que ça aussi, il faut mettre en place des mesures pour contrer cela. Fait que vous voyez les défis qu'on a dans les municipalités aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 15 ans, 20 ans. Alors, c'est tout un changement important et c'est pour ça qu'il faut, comme je le disais tantôt, il faut développer nos villes d'une façon différente pour le futur. Il faut avoir des appuis dans ce sens-là aussi. Des appuis citoyens, nous les avons, mais ça va prendre des appuis financiers aussi à travers différents programmes gouvernementaux pour nous aider à construire nos villes de cette façon-là dans le futur.
Oui, tout à fait. Madame Andénia, comment les municipalités préparent tous ces changements? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à penser.
Oui, tout à fait. C'est dur de faire un travail exhaustif. Souvent, les municipalités ont commencé dans les années précédentes à faire un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, ce qui leur donne un peu une idée de quels sont les secteurs où on pourrait travailler sur diminuer le gaz à effet de serre. Donc souvent, une municipalité va s'attaquer d'abord à ses émissions liées à sa flotte de véhicules municipaux ou alors à ses bâtiments qui appartiennent donc à la ville. Pour travailler sur ces éléments, ben ça souvent ça va être une première étape avant de pouvoir peut-être travailler sur des choses où elle a moins de prise, donc justement tout ce qui est aménagement du territoire, notamment en lien avec les transports en commun, le transport à pied, etc., qui demande en fait la participation de différents acteurs, que ce soit des paliers de gouvernements différents, mais aussi des entreprises, la société civile, les citoyens, etc. Donc il y a comme plusieurs chantiers à mener en parallèle. Et donc, dépendamment en fait des administrations, des priorités vont être mises, peut-être de travailler sur un secteur ou des secteurs en particulier en premier, puis avoir un espèce d'échéancier de travail pour essayer de mener des actions au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est difficile de mener de front beaucoup d'actions, même si en réalité, en effet, ça touche beaucoup de secteurs et beaucoup de personnes en même temps. Il faut réussir un peu à avoir un échéancier en tête avec des indicateurs, revoir les plans, tenter des choses sur le territoire, puis s'ajuster en permanence.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Madame Boisvert, Schaeffer est la première ou sera la première municipalité où ses élus et ses employés seront carboneutres en 2022, c'est ça?
Ben, écoutez, carboneutre, on a déjà compensé nos gaz à effet de serre pour l'année 2020, au moment où on a fait, après qu'on a eu fait faire un inventaire. On a contribué à la plantation d'arbres avec Carbone Boréal, qui est finalement relié à l'Université du Québec à Chicoutimi pour s'assurer de la préservation des arbres qui sont plantés. C'est une chaire de recherche. Et on travaille maintenant à diminuer les gaz à effet de serre que la municipalité produit. Une grande problématique qu'on a, je dirais 80% des gaz à effet de serre que la municipalité produit est en lien avec tout le secteur du transport. Le transport pour transport léger pour les camionnettes des travaux publics, transport plus lourd pour les camions incendies, les niveleuses, etc. Bon, là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a une question de technologie qui n'est pas encore disponible. Le bout qu'on a pu faire, par contre, tous nos employés, incluant les employés de bureau, les élus, tout le monde a participé à une formation sur l'éco-conduite. L'éco-conduite qui vise une réduction de 20% d'essence. Et on a vu les impacts parce que suite à cette formation-là, même les employés sur l'ordre de pause identifiaient des gestes, remarquaient la consommation d'essence, même sur leur véhicule personnel, sur les véhicules de la municipalité. Il y a déjà eu quelque chose. Et cette sensibilisation-là a débouché sur plusieurs choses. Les employés aussi se sont relayés pour installer un bac à compost et en faire l'usage. Il y a eu un projet qui est né des employés aussi. pour lancer éventuellement, bon là, à cause de la pandémie en ce moment, il n'y a pas eu de suite, on espère reprendre ça éventuellement, un concours d'aménagement paysager fait à partir des plantes indigènes qui demande beaucoup moins d'entretien, qui n'exige aucun engrais non plus, et d'étendre ça à l'ensemble de la municipalité en commençant par la municipalité qui, dans ses propres parcs, favoriserait ce genre de choses-là. Alors, je dirais, l'impact est au niveau de la municipalité, au niveau des employés, et comme je vous disais, pour une petite municipalité, notre principal objectif, c'est de créer l'effet d'entraînement. Et on a des communications aussi avec les citoyens, où on identifie des moyens, comment chacun chez soi, on peut encourager ce mouvement-là.
Alors, oui, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont touchées, et c'est mettre une petite graine. Monsieur Diot, Candiac, c'est une plus grosse municipalité. Vous en êtes où par rapport est-ce que vous êtes une municipalité qui va devenir carboneutre bientôt?
22 000 habitants, pour votre information. Alors, dans un premier temps, c'est que nous avons fait l'inventaire des gaz à effet de serre, référence avec l'année 2018. Donc, nous embarquons dans le processus de la Fédération canadienne des municipalités avec les villes vitrines. Alors, on vient de terminer l'inventaire. Nous passons maintenant à l'étape du plan d'action avec la mise à contribution de l'ensemble des employés et suite aux résultats que nous avons reçus du sondage de la part des citoyens, nous allons mettre en place le plan d'action qui est prévu pour cette été. Alors, évidemment, tout ça va sortir des actions concrètes et je ne peux pas vous dire exactement quelles elles seront. Par contre, en faisant partie des villes vitrines, nous avons l'engagement de réduire de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, c'est évident qu'il y aura des actions concrètes qui vont être mises en place dans ce sens-là. Oui. Et je peux vous dire aussi que, oui, le volet transport, ça nous concerne aussi, ça nous concerne tous. D'après les statistiques, c'est toujours au moins 50% et plus du volet de transport qui est vraiment l'endroit où on peut réduire des gaz à effet de serre. Alors, nous allons y attaquer. Nous avons déjà commencé avec un projet d'autobus pilote électrique. Donc, l'année passée, à Candiac, nous avons été la première ville au Canada à mettre une navette autonome électrique sur le territoire de la municipalité. Alors, c'est un projet pilote démonstrateur. Alors, c'est un signal comme quoi qu'il faut regarder, évidemment, dans l'électrification des transports. On est content d'avoir que le gouvernement s'en va aussi dans ce sens-là pour l'achat des autobus électriques un petit peu partout au Québec et au Canada. Donc, ça, c'est fort intéressant. Mais on continue à travailler sur ce volet-là du transport en développant le transport actif et électrifier aussi notre flotte de véhicules et aussi les bâtiments administratifs qui est quand même le deuxième volet non négligeable. Nous allons avoir des investissements à faire dans un nouveau garage de travaux publics, une nouvelle maison des citoyens aussi et puis un nouveau garage des incendies. Alors, vous voyez que pour nous, le timing est bon de faire des choix judicieux dans la construction de ces nouveaux bâtiments-là pour pouvoir faire des actions concrètes afin de diminuer là, les gaz à effet de serre.
Oui, Mme Andélian, ça prend quoi pour une ville de devenir carboneutre comme action?
Alors, malheureusement, il n'y a pas une recette déjà toute prête qu'on peut appliquer. En fait, c'est quand même quelque chose qui est encore très nouveau pour les villes et on ne sait pas exactement comment faire. Il y a beaucoup de villes qui ont donc des intentions de devenir carboneutres, notamment d'ici 2050 pour être conformes à l'accord international de Paris. Néanmoins, aucune ville n'a exactement le plan parfait pour y arriver. Donc, c'est plutôt, on est un peu en train de tâtonner en fait, d'une ville à l'autre pour voir, en effet, suivant les vulnérabilités qui ont été analysées en fait, au préalable et les secteurs sur lesquels on peut jouer pour diminuer les gaz à effet de serre, les municipalités vont prendre des actions différentes et donc privilégier parfois vraiment se concentrer sur le secteur des transports ou sur l'énergie dans les bâtiments ou vraiment des états d'approvisionnement en énergie renouvelable ou encore travailler sur la gestion des déchets. Donc ça va être très différent en fait d'une ville à l'autre et comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de recette miracle encore.
Entendu.
Donc ce que font certaines villes, et notamment par exemple la Montréal l'a annoncé, c'est qu'elles essayent aussi sur des territoires plus petits d'essayer de devenir carboneutre à des échelles différentes. Donc par exemple à Montréal, le quartier Namur Hippodrome, qui va être un quartier en redéveloppement, a été annoncé comme un futur quartier carboneutre. Donc peut-être qu'avant de viser une carboneutralité sur l'ensemble du territoire de la ville, peut-être essayer par quartier ou par secteur. secteur, comme par exemple ce qui a été fait à Shefford, de vraiment regarder par exemple au niveau des employés de la ville en premier, comment les rendre carboneutres. Ça peut être un peu des étapes vers une carboneutralité plus globale, on espère, d'ici 2050.
Oui, tout à fait. Madame Boisvert, quelle est la place des citoyens dans ce virage vert et d'adaptation au changement climatique?
La place des citoyens, je dirais que c'est une place où, en tout cas pour la municipalité, on veut faire ça en partenariat, prendre ce virage-là. Écoutez, on est en train de regarder, on est en bordure d'une autoroute, de l'autoroute 10. Alors, est-ce qu'il y aurait un stationnement incitatif qu'on pourrait mettre en place? Le volet des pistes cyclables aussi est important et on veut collaborer avec les citoyens. On est à faire une planification stratégique pour les 10 prochaines années et les réponses qu'on reçoit suite aux différentes consultations, qui sont pas d'ailleurs terminées, vont beaucoup par. Il y a beaucoup une volonté d'implication citoyenne. On réfléchit à la possibilité d'avoir un comité consultatif en environnement pour nous aider à préciser avec les citoyens qu'est-ce qui pourra être fait. Mais écoutez, le tout est en cours et la préoccupation est constante. Une municipalité ne peut pas devenir carboneutre. Elle peut être par elle-même. Elle a un rôle à jouer de leadership, d'effet d'entraînement, de partenariat, et je pense que de toute façon, réduire les gaz à effet de serre, c'est l'affaire de tout le monde. Si on est capable, ne serait-ce que de propager ça en agissant un peu, je dirais, comme leader, comme exemple, et en invitant les citoyens à en faire autant, et en invitant les citoyens à nous interpeller aussi, est-ce qu'on pourrait faire davantage? Je pense que la vision de Shefford par rapport à ses citoyens dans cette démarche-là est vraiment une démarche de partenariat.
Oui, un petit mot rapide, M. Diotte, pour terminer. Donc, vos citoyens, je sais que vous les avez consultés. Qu'est-ce qu'ils désirent, eux, du côté des changements climatiques?
Oui, c'est sûr qu'avec différents exemples que je vous ai donnés tantôt, ils vont dans le même sens. Et on parlait de partenariat aussi, il ne faut pas oublier nos citoyens corporatifs. Alors, quand on parlait qu'on peut faire des actions concrètes concernant nous, au niveau corporatif, il ne faut pas oublier que quand même la majorité des gaz à effet de serre proviennent de l'ensemble de la municipalité, dont nos clients corporatifs. Alors, nous avons des industries sur le territoire de Kasiak. Alors, on est déjà en contact avec eux. Nous avons un projet fort intéressant d'une boucle énergétique pour récupération de chaleur pour différents bâtiments municipaux à construire. Alors ça, c'est un autre exemple concret pour lequel là, nous y travaillons depuis quelque temps. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut impliquer tout le monde, autant les résidents que les citoyens, les commerces que les industries. Et c'est ensemble, avec un plan d'action commun, qu'on va y arriver.
Et tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, donc finalement. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Normand Diotte, le maire de Candiac, de Joanne Boisvert, la conseillère municipale de Shefford, et d'Hélène Mondaignan, la doctorante en l'INRS, en études urbaines et assistante de recherche à Labo Climat Montréal. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VL. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien. Jing Zhao Hua.